Entretien sur la seconde épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1969. Chapitre 8 et chapitre 9. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de la Macédoine. C'est que, dans une grande épreuve de tribulation, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Car selon leur pouvoir, j'en rends témoignage, et au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément, nous demandant avec de grandes instances la grâce et la communion de ce service envers les saints. Et non seulement, comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu, de sorte que nous avons exhorté Tite, afin que, comme il l'avait auparavant commencé, ainsi aussi il acheva à votre égard cette grâce aussi. Mais comme vous abondez en toutes choses, en foi et en parole, et en connaissance et en toute diligence, et dans votre amour envers nous, que vous abondiez aussi dans cette grâce. Je ne parle pas comme donnant un commandement, mais à cause de la diligence d'autres personnes, et pour mettre à l'épreuve la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et en cela je vous donne un avis, car cela vous est profitable, à vous qui avez déjà commencé dès l'année passée, non seulement de faire, mais aussi de vouloir. Or maintenant, achevez aussi de faire, de sorte que, comme vous avez été prompts à vouloir, ainsi aussi vous soyez prompts à achever, en prenant sur ce que vous avez. Car si la promptitude à donner existe, elle est agréable selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. Car ce n'est pas afin que d'autres soient à leur aise et que vous, vous soyez opprimés, mais sur un principe d'égalité. Que dans le temps présent, votre abondance supplée à leurs besoins, afin qu'aussi leur abondance supplée à vos besoins, de sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'avait pas moins. Or grâces à Dieu qui met le même zèle pour vous dans le cœur de Tite, car il a reçu l'exhortation. Mais, étant très zélé, il est allé spontanément auprès de vous. Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange dans l'Évangile est répandue dans toutes les assemblées, et non seulement cela, mais aussi il a été choisi par les assemblées pour notre compagnon de voyage, avec cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du Seigneur lui-même, et pour montrer notre empressement, évitant que personne ne nous blâme dans cette abondance qui est administrée par nous. Car nous veillons à ce qui est honnête, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère, du zèle duquel, en plusieurs choses, nous avons souvent fait l'épreuve, et qui maintenant est beaucoup plus zélé à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Quant à Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des assemblées, la gloire de Christ. Montrez donc envers eux devant les assemblées la preuve de votre amour et du sujet que nous avons eu de nous glorifier de vous. Chapitre 9. Car pour ce qui est du service envers les saints, il est superflu que je vous en écrive. Car je connais votre promptitude, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe est prête dès l'année passée, et le zèle de chez vous a excité la généralité des frères. Mais j'ai envoyé les frères afin que ce en quoi nous nous sommes glorifiés de vous ne soit pas mis à néant à cet égard, afin que, comme je l'ai dit, vous soyez prêts, de peur que si des Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous, pour ne pas dire vous, nous ne fussions confus de cette assurance. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller au préalable vers vous et de compléter d'avance votre libéralité, annoncée d'avance, afin qu'elle soit ainsi prête comme une libéralité et non comme une chose extorquée. Or je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Que chacun fasse selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger, fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichi pour une entière libéralité, qui produit par nous des actions de grâces à Dieu. Parce que l'administration de cette charge non seulement comble les besoins des saints, mais aussi abonde par beaucoup d'actions de grâces rendues à Dieu, puisque, par l'expérience qu'ils font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'Évangile du Christ, et pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, et par les supplications qu'ils font pour vous, étant animés d'une ardente affection envers vous, à cause de la surabondante grâce de Dieu qui repose sur vous. Grâces à Dieu pour son don inexprimable.
Nous avons vu que les Corinthiens avaient reçu les exhortations qui leur étaient adressées dans la première épître. Un grand zèle s'était produit chez eux pour la sainteté du nom de Christ, et ils avaient été restaurés par la repentance, quoiqu'il y eût encore chez eux bien des choses à reprendre. Quand une assemblée est en bon état, il ne faut pas penser que la limite atteinte ne puisse pas être dépassée. Nous avons toujours à faire des progrès en zèle et en affection pour Christ, en dévouement pour l'Évangile, en amour les uns pour les autres. Nous trouvons ici un autre caractère du ministère, moins remarqué peut-être, mais tout aussi précieux, que ceux dont cette épître nous a entretenus jusqu'ici. Il a en vue les besoins matériels des saints. Cela est dit au verset 4.
La grâce et la communion de ce service,
ou ministère,
envers les saints.
Ce service consistait, comme nous le voyons, en aumônes, en dons d'argent destinés à la subsistance des frères à Jérusalem qui étaient dans une grande misère, car ils avaient contre eux non seulement les puissances persécutrices du monde, mais aussi celles de leur propre nation, ennemies de Christ et des saints. Dans sa première épître, l'apôtre avait engagé les Corinthiens à mettre de côté ce qui était nécessaire pour ce service. 1 Corinthiens 16, verset 1.
Or, pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, comme j'en ai ordonné aux assemblées de Galatie, ainsi faites vous aussi.
Et c'est à cette collecte qu'il est fait allusion ici. Nous la trouvons encore mentionnée au chapitre 15, versets 25 et 26 de l'Épître aux Romains.
Mais à présent je vais à Jérusalem, étant occupé au service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont trouvé bon de subvenir, par une contribution, aux besoins des pauvres d'entre les saints qui sont à Jérusalem.
L'apôtre était sur le point de monter à Jérusalem, pour porter aux frères les dons des assemblées des gentils. Les saints de la Macédoine, où se trouvait l'apôtre quand il écrivait cette épître, avaient fait tout leur possible, donnant même au-delà de leur pouvoir. Ces assemblées de Macédoine étaient cruellement persécutées et avaient perdu leurs biens, mais il y avait parmi elles beaucoup d'amour, et rien ne les arrêtait quand il s'agissait de contribuer au soulagement des frères. Les Corinthiens avaient déjà, depuis une année, commencé leur collecte, mais leurs ailes s'étaient ralenties. Ces riches Corinthiens n'avaient pas été à la hauteur des pauvres Macédoniens. C'est ce que l'on rencontre parfois. Où il y a prospérité parmi les saints, des fortunes dont on peut disposer, on trouve moins de libéralité relative que dans les milieux pauvres, et j'en suis souvent frappé. Cela provient de ce que, dans la prospérité, les cœurs se dessèchent et s'occupent des choses de la terre. Lorsque cette prospérité n'existe pas, les cœurs sont beaucoup plus portés vers le service du Seigneur. Tout en traitant les Corinthiens avec une douceur infinie, l'apôtre cherche à activer leurs ailes en leur montrant comment le Seigneur agit dans les assemblées de Macédoine. Ce service est très précieux quand il est rendu réellement dans une pensée d'amour, et il contient peut-être plus de bénédictions que le ministère de la parole, même exercé par des dons éminents. Aussi le Seigneur Jésus y est attentif. Les assemblées de Macédoine demandaient à l'apôtre, avec de grandes instances, comme une grâce, de pouvoir manifester leur amour envers les saints de Jérusalem. Verset 4. C'était leur manière de considérer la question, et ils insistaient tous, d'un commun accord, pour que cette grâce leur fût accordée. Avons-nous l'habitude de considérer une collecte pour les saints comme une grâce? Ils demandaient aussi à Paul, quoiqu'il fût apôtre, d'être lui-même l'instrument de ce ministère. Paul accepte. Le grand apôtre des gentils consent à porter lui-même les sommes d'argent qui lui seront confiées. Ce n'était pas une petite chose en ce temps-là de se charger d'un tel fardeau, et l'apôtre veillait, en outre, scrupuleusement sur son dépôt. La gloire de Christ était impliquée pour lui dans l'administration de ce trésor. En apparence, ce ministère a précipité l'apôtre dans les plus grandes difficultés, car il fut l'occasion de sa captivité. Au chapitre 24 des Actes, il dit à Félix :
« Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation. »
Verset 17. Tel était le but. Le résultat fut que Paul manqua être massacré par les Juifs, fut fait prisonnier, passa des années en captivité, fut transporté à Rome, lié de chaînes, et finalement termina sa carrière comme martyr. Mais Dieu sut se servir de toutes ces circonstances pour nous donner une partie de cette parole dont nous tenons tant d'instructions précieuses.
L'apôtre dit ici, « Mais comme vous abondez en toutes choses, en foi et en parole, et en connaissance et en toute diligence, et dans votre amour envers nous, que vous abondiez aussi dans cette grâce. »
Verset 7. Ce passage est frappant. Dans la première épître aux Corinthiens, il rend des grâces à Dieu pour les choses dont il reparle ici. La parole, la connaissance, qui caractérisait alors les saints de Corinthe, quoiqu'ils fussent dans un état déplorable quant à leur conduite chrétienne. Maintenant, ces mêmes choses subsistaient encore, mais la repentance avait apporté dans ce milieu un élément nouveau, l'amour. Quelque comblés qu'ils fussent de richesses spirituelles, dans la première épître, ils n'abondaient pas en amour, leur cœur était rétréci. Le monde s'en était emparé. Maintenant, l'amour remplaçait la culture du moi. Ils avaient sans doute beaucoup plus besoin d'être exhortés que les pauvres Macédoniens, mais la sincérité de leur amour étant mise à l'épreuve ils étaient disposés à répondre à ce que le cœur de l'apôtre attendait d'eux. Il leur avait envoyé Tite dans la crainte que ces chers Corinthiens ne fussent en mauvaise posture vis-à-vis de leurs frères en Macédoine. « Si des Macédoniens viennent avec moi, vous trouveront-ils prêts ?» Tous ces préparatifs, le voyage de Tite, car passer de Macédoine en Achaïe était une grosse affaire en ce temps-là, la visite de Paul qui devait y faire suite, l'accompagnement par les frères de Macédoine, tout cela semble hors de proportion avec son but, un simple secours d'argent. Mais il s'agissait de manifester pratiquement l'amour de Christ, et pouvait-il y avoir un but plus élevé que celui-là? Au verset 18, il ajoute « Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange dans l'Évangile est répandue dans toutes les assemblées. » Comment s'appelait-il? Nous ne le savons pas. Et plus loin, au verset 22, « Nous avons envoyé avec eux notre frère, du zèle duquel, en plusieurs choses, nous avons souvent fait l'épreuve, et qui maintenant est beaucoup plus zélé à cause de la grande confiance qu'il a en vous. » Voici donc deux frères dont le zèle est nommé, tandis que Tite qu'ils accompagnent nous est connu de tant de manières, et dont le nom n'est pas même prononcé. Est-ce tout? Non, remarquez-le bien. Quant à Tite, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous. Quant à nos frères, les deux dont il vient de parler, ils sont les envoyés des assemblées, la gloire de Christ. Verset 23. Cela ne vaut-il pas mieux que de nous conserver leur nom? Ils sont la gloire de Christ. Ô chers amis, j'aimerais beaucoup mieux n'avoir aucun nom parmi les hommes, mais qu'il fût dit de moi, il est la gloire de Christ. C'est ce que produit toute marche fidèle. Vivant au service des autres, pour l'amour de Christ, exerçant, dans leur obscurité, un vrai ministère envers les bien-aimés du Seigneur, leurs noms ne sont pas restés dans la mémoire des hommes. Ils sont même effacés de celle des chrétiens, mais ils sont la gloire de Christ. De tels frères devaient recevoir, devant les assemblées, la preuve de l'amour des saints. Ils accompagnaient Tite, heureux de rester dans l'ombre d'un serviteur de Dieu que l'apôtre employait comme son délégué dans l'œuvre, heureux en même temps d'avoir toute l'approbation de Christ dans leur humble service. Je voudrais encore présenter quelques pensées qui m'ont réjoui à la lecture du chapitre 9. Nous y trouvons les conséquences de la fidélité dans ce ministère de charité qui avait si peu d'apparence. La première des conséquences se trouve au verset 6.
« Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. »
N'oublions pas cela. Si nous gardons pour nous-mêmes, comme s'ils étaient à nous, les biens que Dieu a mis entre nos mains, nous ne semons pas du tout ou nous semons chichement. Mettre de côté tout ou partie de son superflu, c'est, je n'en doute pas, semer chichement. Accumuler les biens que Dieu met à notre disposition, c'est les détourner du but pour lequel Dieu les a mis entre nos mains. Celui qui sème chichement ne peut s'attendre à des bénédictions abondantes, même quant aux choses de la terre. Un économe prudent est celui qui use largement des biens qu'il considère, non comme étant à lui, mais à son maître. Une seconde conséquence de la fidélité dans le service pécuniaire se lit au verset 7.
« Que chacun fasse selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte. » Car Dieu aime celui qui donne joyeusement.
Remarquez ce mot, Dieu aime. Non pas qu'il n'aime tous ses enfants, mais là où se rencontre le désir joyeux de servir le Seigneur, dans ses biens de la terre, on est aimé de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, « Si vous obéissez, le Père vous aimera. Mais nous trouvons ici, Dieu vous aime si vous donnez. » Dans la proportion où j'emploierai joyeusement les choses d'ici-bas pour le service de celui qui me les a confiés, j'aurai dans mon âme une jouissance spéciale de l'amour et de l'approbation de Dieu. Une troisième conséquence se voit au verset 8 à 11.
Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, vous abondiez pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit, « Il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. » Or celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger, fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichi pour une entière libéralité qui produit par nous des actions de grâces à Dieu.
Ici, Dieu fait abonder la grâce envers eux pour qu'ils puissent abonder pour toute bonne œuvre. Il honore les saints qui ont employé leurs biens pour lui. Il augmente les fruits de leur justice, les fruits qui sont la conséquence d'une marche juste et fidèle, de manière qu'ils puissent les répandre au dehors avec une entière libéralité et sans aucune restriction. Une quatrième conséquence est mentionnée au verset 12 et 13.
L'administration de cette charge abonde par beaucoup d'actions de grâce rendues à Dieu, puisque, par l'expérience qu'ils font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'Évangile du Christ,
et pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ce n'est certes pas peu de choses que des actions de grâce montent continuellement à Dieu à notre sujet, du fond des cœurs de tous les saints qui ont été secourus par nous. Ils rendent grâce ici pour deux choses. D'abord, pour la profession de leurs frères d'être soumise à l'Évangile du Christ, profession dont la réalité est prouvée par leur dévouement. Ensuite, pour la libéralité de leurs dons, qui ne s'adressent pas seulement aux nécessiteux dans cette circonstance spéciale, mais coulent constamment vers tous. On trouve enfin au verset 14 une dernière conséquence de la fidélité dans ce service.
Les supplications qu'ils font pour vous.
Quel privilège pour le serviteur fidèle d'être ainsi l'objet des supplications des saints à son égard, et de combien de dangers, de fautes peut-être, il sera préservé, parce que l'intercession des saints, ranimée par sa libéralité, monte continuellement pour lui devant le trône de la grâce. L'apôtre termine par ces mots.
Grâces à Dieu pour son don inexprimable.
Verset 15. Nous avons vu la mesure la plus grande de la grâce envers nous, dans le fait que Christ a été pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Nous voyons ici la mesure la plus grande de la libéralité de Dieu à notre égard. Quel est ce don inexprimable? C'est la personne de Christ lui-même.